France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
8h36 sur France Culture, notre invité culture, il a dit dire qu'il y a des gens qui écoutent les infos à la radio, les matinales. Pourquoi s'infliger les péroraisons des politiques alors que ces heures devraient être celles du silence? Il n'y a pas que les péroraisons des politiques, il y a aussi la parole des écrivains qu'on peut écouter dans une matinale, et c'est le cas dans celle de France Culture. Avec son air de lieutenant prussien, il cultive son style de Bondy, de Grand Chemin, mais aussi un style d'aristocrate de la littérature. Après une vie à coucher dehors, chez Gallimard, Goncourt de la Nouvelle, après dans les forêts de Sibérie ou encore Bérézina, il a passé l'an dernier un été avec Homer, dont il a fait un livre paru aux éditions des Équateurs en coédition avec Radio France. Bonjour à vous, Sylvain Tesson.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors on va parler d'un livre, d'une aventure qui vous a emporté et qui nous a emballé, l'Iliade et l'Odyssée, une épopée qui se comprend différemment pour vous, Sylvain Tesson, d'un âge à l'autre.
Oui, elle se comprend différemment selon qu'on soit un enfant impressionné et intimidé par ces textes qui peuvent sembler poussiéreux, ou selon que l'on soit un adolescent plein d'ardeur, ou un adulte arrivé à une certaine sagesse. Encore faudra-t-il penser que l'âge adulte ne vous amène pas toujours à la sagesse, mais souvent vous amène dans le mur. Et puis, c'est un texte qui n'est pas le même selon le siècle où vous vivez. Et pourtant, malgré les différences d'époque ou malgré les différences d'âge au cours d'une existence, il y a quelque chose d'éternel. Et c'est ça qui fait l'espèce de valeur irradiante de l'Iliade et de l'Odyssée.
Et vous vous sentez extrêmement contemporain de cet Homère. On reviendra peut-être sur les similitudes d'une époque à l'autre, juste pour rester sur les bancs de l'école quelques instants, parce que ce sont vraiment nos rêves d'enfants qui seront tout entiers contenus dans cette œuvre. Les dieux, les héros, Ulysse, prendre la mer, le bleu, c'est notre premier contact avec la Méditerranée. Comme le rappelle l'historien et anthropologue français, spécialiste de la Grèce antique, plus particulièrement de ses mythes, Jean-Pierre Vernant.
Ces mythes, c'est quoi ? Ces mythes tels que nous les avons, fondamentalement, ce sont des textes de poètes. Cette poésie, le monde d'Homère par exemple, ou les textes d'Hésiode, constituent comme la mémoire collective, l'ensemble du savoir que tous les enfants apprennent, dont ils se pénètrent, et qui leur apprend en même temps comment il faut labourer, comment il faut naviguer, comment il faut couper les arbres, comment il faut s'adresser à Zeus, ce qu'est Zeus par rapport à tel autre dieu. Tout cela est appris ensemble et raconté dans des récits qui n'ont pas de prétention théologique, auxquels vous croyez dans une certaine mesure, mais auxquels vous croyez comme vous croyez quand vous lisez un roman. Ben, vous êtes pris dans le récit, mais par rapport auxquels vous pouvez prendre toutes les distances. D'autant que ces mythes grecs sur les mêmes dieux et sur leurs aventures peuvent raconter des versions assez diverses. Et en ce sens, il n'y a pas d'obligation d'adhérer.
Voilà, c'est vraiment ce premier pied qu'on a pu poser dans la Méditerranée, c'est avec l'Iliade et l'Odyssée. Pour vous aussi, Sylvain Tesson?
Oui, c'est le premier pied qu'on pose dans la géographie et qu'on pose dans l'histoire des hommes. Ce que dit Jean-Pierre Vernant est saisissant parce que il insiste sur le fait qu'il y a la dimension quasi ethnologique dans l'Iliade et l'Odyssée, les techniques que l'on peut tout à coup découvrir dans le poème, la manière dont on va recevoir l'hôte à la table du roi, la manière dont on va se battre contre l'ennemi en érigeant un mur. Enfin, il y a presque des moments où on peut considérer que le poème d'Homère est un manuel de stratégie ou de tactique sur le terrain. Et puis en même temps, il y a des immenses invariants humains qui vous renseignent sur la personnalité et la manière dont il faut que l'homme se conduise dans l'existence.
Vous soulignez effectivement cette invariabilité de l'homme en prise avec ses passions. La guerre et la gloire, la grandeur et la douceur, la peur et la beauté de la mémoire et la mort sont les combustibles du brasier de l'éternel retour, extrait de votre été avec Homère, Sylvain Tesson. Il y a quand même une question soulevée par Jean-Pierre Vernant qui est importante, c'est comment s'adresser à Zeus, parce qu'on peut en avoir besoin. Vous avez trouvé la réponse?
Hélas,
vous pouvez nous dire comment faire?
Non seulement je n'ai pas trouvé la réponse, mais je ne suis pas sûr, d'ailleurs Vernant l'évoquait, je ne suis pas sûr qu'elle soit contenue dans le poème. Il n'est même pas sûr que les dieux, que les Grecs croyaient en leur dieu et en leur mythe. Ça, c'est une question qu'a posée Paul Venn, un contemporain de Jean-Pierre Vernant. Enfin, Paul Venn vit toujours, pardon de dire qu'il était contemporain de Jean-Pierre Vernant. Paul Venn est homérique, c'est-à-dire qu'il est éternel. Il se demandait si les dieux croyaient à leur mythe. Et c'est vrai qu'on peut se demander si, finalement, les dieux n'ont pas fait, en créant ce panthéon de... Si les Grecs n'ont pas fait, en créant ce panthéon de divinités, qu'une transposition de leurs pulsions, de leurs sentiments, de leurs penchants, de leurs excitations, en créant un dieu de la violence, un dieu de la beauté, un dieu de la volupté, un dieu de l'agriculture, et en faisant une immense panoplie de toutes les tendances humaines et en les divinisant. Alors comment s'adresse-t-on à son penchant ? Ça, je ne sais pas.
Et alors cette géographie homérique qui dessine le visage de la Terre, selon vos mots, c'est à Tinos, petite île des Cyclades, que vous êtes parti vous puiser l'inspiration. Effaré par les rafales, écrivez-vous, et étourdi de lumière, je compris que la poésie homérique était née de la rencontre du génie des lieux et du génie d'un homme. Ça a été une retraite silencieuse là-bas, à Tinos, pour vous, malgré le bruit du vent.
Oui, je me suis installé pendant un mois dans un pigeonnier, devant la mer. Ça me semblait très important de m'imprégner de toutes les caractéristiques, des modalités du climat, de la géographie, de l'hydrographie, de la lumière grecque. Non pas du tout parce que ça serait une erreur de penser que Homère a été déterminé par sa géographie, mais il a été fortement, probablement influencé. Parce que dans l'Iliade et dans l'Odyssée, les analogies avec la flore, avec la faune, avec les descriptions géographiques sont tellement fortes, sont tellement superbement menées et décrites qu'on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il a été un amoureux du vivant et de la nature. Il a certainement navigué, il a certainement bivouaqué dans les bois, il a forcément vu le retour des troupeaux sur les îles le soir au coucher du soleil. Sinon, ces photographies, ces descriptions et ces tableaux de la nature ne seraient pas aussi fantastiquement peints.
Est-ce que vous diriez, Sylvain Tesson, qu'à travers ce paysage, Homère vous est devenu familier ?
Il s'est rapproché de moi, c'est-à-dire qu'il a cessé d'être ce grand poète scolaire qui vous effraie quand vous rentrez en sixième. Il devient à la fois votre... presque un contemporain. C'est ça qui est étonnant, c'est que l'Iliade et l'Odyssée, c'est le poème du temps. Le temps retrouvé, le temps d'Ulysse qui revient dans son île pour essayer de retrouver son âge d'or perdu, le temps des héros qui essayent de faire en sorte que le temps soit éternel s'il reste dans la mémoire des hommes. Et du coup, vient un moment où Homère boucle la boucle du temps. C'est pour ça que c'est très important de rencontrer Homère à la moitié de sa vie, ou peut-être à la fin. C'est très important de commencer sa vie d'enfant par Homère, parce qu'on va cheminer avec un compagnon temporel qui va vous suivre dans votre existence.
Ouvrir l'Iliade et l'Odyssée revient à lire un quotidien, avez-vous dit, et se sentir le contemporain d'Homère et de la société qu'il décrit. C'est ça qui est assez fascinant à travers vos mots, c'est qu'on se rend compte que c'est avant tout une expérience du sensible, presque plus encore qu'une aventure intellectuelle.
Hein. Oui, l'idée était de Charles Péguy. De dire qu'on ouvrait le quotidien, le journal quotidien, il était déjà périmé quelques heures plus tard, alors que Homère était éternel. Mais vous avez raison, il y a une double expérience. Il y a une expérience sensible, on a l'impression d'expérimenter une matière physique et géographique qui est révélée, qui rayonne dans le texte. Ça, c'est la manière dont Homère se sert de tous les blasons de la Méditerranée, le soleil, l'écume, la chaleur, l'odeur du calcaire, les oiseaux, le combat des animaux, la poussière, enfin toute cette chair de la géographie. Et puis il y a la matière intérieure, la matière philosophique. Pardon, mais l'homme ne s'est pas refait. Il y a quelque chose qui, je crois, s'appelle encore le progrès. Enfin, il y a des gens qui sont tout à fait convaincus qu'il y a une perfectibilité de l'homme. Mais quand on ouvre l'Iliade et l'Odyssée, on s'aperçoit que nous n'avons pas beaucoup changé et que l'homme ne s'est pas refait, quoi. Il reste cette espèce d'animal parfois séduisant et parfois lamentable, qui parfois se comporte comme... un héros et parfois se comporte comme un pauvre type.
Mais vous dites que les Grecs nous renseignent aussi sur ce que nous ne sommes pas encore devenus. Qu'est-ce qui va nous arriver pour vous ? si on suit la trajectoire de l'Iliade et l'Odyssée?
Eh bien, il peut nous arriver deux choses. Soit nous suivons la trajectoire d'Ulysse et nous essayons, non pas uniquement de revenir chez nous, parce que ça c'est l'anecdote, le retour d'Ulysse dans Ithaque, mais nous essayons de rétablir un ordre des faits, un équilibre et une harmonie perdue. Soit nous continuons à nous comporter comme des espèces de pantins désarticulés, épileptiques et tout à fait inconséquents. Et nous continuons à ravager ce que nous possédons. Alors aujourd'hui, on pourrait dire que ce sont les ressources naturelles, par exemple. Et à ce moment-là, la chute sera très dure. Et Homère décrit très bien les héros qui sont allés trop loin, comme Achille, qui se sont laissés aller à leur colère, à leur folie, à leur démiurgie, qui se sont crus être des dieux, qui ont versé dans une violence aveugle, qui sont sortis de la mesure et qui finissent dans les enfers, à clapoter dans les vapeurs méphitiques de l'enfer. Alors c'est pas très drôle, mais ça n'est peut-être que le juste retour des choses quand on va trop loin.
Et vous, Sylvain Tesson, vous êtes plutôt Achille ou plutôt Ulysse ?
Oh bah, dire qu'on est Achille, enfin, personne ne vous dira les yeux dans les yeux, comme dirait l'autre. Personne ne
Sauf vous dit... peut-être. Non, vous non plus ?
Non, bah non, personne ne vous dira qu'il est Achille. Évidemment qu'il y a un côté comme ça exaltant du héros qui, sur la barricade avec son épée dans la main, qui donne des grands moulinets à coups de bras et qui ouvre des tranchées dans les rangs ennemis. Ok, certes, mais ça c'est Goldorak. Mais personne ne vous avouera qu'il veut dépasser la mesure, car c'est la grande idée d'Homère. C'est voilà, nous sommes des hommes, nous avons hérité de ce monde qui repose sur une beauté liée à un équilibre des forces, à un équilibre du rapport de la distribution des choses qui est faite aux uns et aux autres. Et si nous venons, comme des boules dans un jeu de kiff, faire effondrer cette harmonie, alors on finira dans les enfers. Donc personne ne vous dira qu'il veut être Achille.
Mais vous nous direz que vous êtes peut-être Ulysse. Ulysse, qui, d'après vous, a quand même la vertu et la qualité de la curiosité. Il fuyait quoi exactement, Ulysse? Ou plutôt, est-ce qu'il fuyait la même chose que vous, si on se dit que tout voyage est quand même une fuite?
Mais Ulysse... Je ne sais pas si son moteur a été une fuite davantage qu'une attraction. Ulysse, il veut restaurer un état nostalgique qu'il a connu et qui a été le moment où il régnait sur son petit empire d'harmonie qui s'appelait Ithaque, où il avait une famille, où il avait une terre, il avait une seigneurie. Il veut rentrer chez lui. Et il va circuler. Ça, ce que je fais là, c'est de vous résumer en quelques lignes le propos général de l'Odyssée. Il va essayer de rentrer chez lui à travers les îles et il va se faire de temps en temps attirer, ensorceler par des magiciennes, par des déesses, par des monstres qui vont essayer de le détourner. Voilà, ça c'est la grande obsession d'Homère, c'est de montrer que nos existences consistent à être déviées des grandes lignes, des grands axes et des grandes tensions qu'on peut essayer de leur imprimer. Alors fuit-il ? Oui, il se fuit lui-même, il fuit son penchant à faire l'imbécile. Il fuit son penchant à sortir de lui-même et il essaye absolument de se raisonner pour revenir à la ligne qu'il s'est impartie.
Et si j'insiste et vous redemande ce que vous fuyez, vous ne répondriez pas à autre chose ?
Moi, ce que je fuis, c'est l'ennui. Si jamais, mais enfin, c'est très vaniteux de dire ça, mais si jamais j'essaye de trouver chez Ulysse un reflet qui correspondrait à certains de mes penchants, il y aurait celui de la curiosité. J'aime aller voir derrière l'horizon, j'aime pousser la porte, j'aime connaître ce qu'il y a derrière le voile de l'inconnu. En cela, j'essaye de me conformer à certains enseignements d'Ulysse. Je vais voir.
Bon, je vous ramène en Grèce, peut-être sur l'île de Tinos, mais version temps moderne, avec un disque qui veut illustrer un voyage d'Ulysse d'aujourd'hui qui quitterait sa terre natale, la Grèce, pour partir comme tant d'émigrés de nos jours, puis revenir par la seule magie de la musique. Le groupe s'appelle Acropolis Bye Bye et le titre Cigana. Thank you. Acropolis Bye Bye avec Sigana, extrait de l'album Greek Revival Music. Vivre sur un fil, prendre des risques, explorer l'intensité de l'existence par curiosité. L'écrivain Sylvain Tesson est avec nous ce matin. Vous savez, Sylvain Tesson, le philosophe Éric Fiat, dans son ode à la fatigue qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire, distingue la bonne fatigue existentielle, sisyphéenne, de la mauvaise fatigue qui serait révélatrice du malaise de l'individu postmoderne, désamarré de son bien-être par la culture de la performance. Cette bonne fatigue, vous, Sylvain Tesson, vous savez l'accueillir contre toute forme de servitude volontaire ?
J'essaie. Je ne sais pas si la bonne fatigue serait une fatigue sisyphéenne. D'ailleurs, Ulysse rencontre Sisyphe dans les enfers, qui pousse son rocher et qui voit l'objet de ses efforts immédiatement reculer et s'annuler par la chute du rocher. Mais j'essaie, oui, bien entendu, de chercher une bonne fatigue qui est toujours nourrie de curiosité.
Vous vous rêvez plutôt aujourd'hui en Ulysse façon Homère, en Magellan façon Zweig, en Christophe Colomb façon... Trois petits points.
Si je m'identifie... Oui.
Si vous deviez faire un autre voyage littéraire, lequel vous aimeriez réaliser? Alors Homère, c'est déjà fait.
Magellan, pour une raison très simple, c'est que Magellan est parti faire ce tour du monde, qu'il n'a pas d'ailleurs réussi à boucler, puisqu'il est mort dans les Philippines d'une flèche. Il est parti contre l'avis de tous. Il y a d'ailleurs quelque chose d'éminemment ulyssien chez Magellan, c'est-à-dire que personne ne pensait qu'il y aurait ce détroit qui permettrait de faire communiquer les deux océans, et lui en avait l'intuition. Il y a quelque chose de magique dans cette espèce de prescience de l'amiral qui emmène ses troupes en leur disant « si, je sens qu'il y a quelque chose, qu'il y a un passage », et il va réussir à prouver que parfois l'ardeur, l'intuition intérieure... est plus forte que les préjugés.
Est-ce que la spiritualité, sous une forme ou sous une autre, aide à maintenir cette ardeur vivace, vivante en vous, Sylvain Tesson, vivre sans Dieu ? Est-ce que vous y parvenez ? Ou est-ce que vous cherchez toujours des spiritualités de substitution ?
Mais moi, la spiritualité telle que on peut la lire entre les lignes d'Homère, me plaît beaucoup, et je pourrais presque dire me satisfait. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer deux choses. Il y a le panthéon des dieux qui organisent le monde et qui ne sont finalement que le reflet supérieur des hommes, qui maintiennent l'équilibre du cosmos. Mais il y a une autre spiritualité qui est contenue dans la pensée antique et qui est la manifestation du principe divin dans l'expression du vivant. Il y a en permanence chez Homère un aller-retour analogique, une référence qui est faite à la pulsion de vie chez les bêtes, chez les animaux, dans les phénomènes cosmiques, dans les phénomènes climatiques. Et tout à coup, l'homme grec, l'homme antique, sur la plaine de Troie ou sur son bateau dans la mer Égée, regarde les manifestations du vivant et s'aperçoit qu'il y a là quelque chose qui s'appelle la vie. Et peut-être faudrait-il s'en contenter et consentir à cette émanation extraordinaire d'énergie vitale au lieu d'aller chercher des chimères présupposés, mais dont nous ne sommes absolument pas sûrs de l'existence, alors que les poissons qui volent dans l'écume et les oiseaux qui tournoient dans le ciel, ça nous en sommes sûrs.
Alors, on va continuer à évoquer ces quelques chimères, mais aussi la réalité d'aujourd'hui avec Hervé Aubron, rédacteur en chef adjoint du nouveau magazine littéraire qui vient de nous rejoindre dans ce studio à l'occasion de l'apparition en kiosque du numéro d'été du nouveau magazine littéraire à sa une « Vivre sans Dieu ». Bonjour Hervé Aubron.
Bonjour.
Le nouveau magazine littéraire qui a fait peau neuve en début d'année et qui est donc partenaire aujourd'hui de l'émission proposée cet été par Fabrice Midal sur France Culture, Narcisse accusé, non coupable. En quoi vous êtes-vous retrouvé dans le parti pris inattendu de ce parcours ?
Écoutez, Fabrice Midal, c'est quelqu'un qui est de formation philosophique mais qui enseigne et pratique depuis de longues dates la méditation. Dans ce parcours, il essaye de relier ces deux champs de sa pratique et de son savoir, en essayant de réhabiliter cette notion de narcissisme a priori extrêmement péjorative, et dont il fait, enfin, et d'autant plus que dans la société du selfie, des égoïsmes, de la voracité, que sais-je, Fabrice Midal, lui, croit au contraire, c'est une notion éminemment positive, et qu'il faut le muscler, qu'on n'est pas assez narcissique, qu'il faut que c'est la base du désir et qu'il faut travailler son souci de soi, pour reprendre la notion de Foucault. Et donc sur le plan intellectuel, il y a quelque chose évidemment dans lequel le magazine s'est reconnu, puisqu'il y a toujours le dossier historique du magazine, où notamment on décline parfois des personnages, et ici en effet Fabrice Midal effeuille le Narcisse, puisque c'est une fleur en effet, et essaie souligner toutes les équivoques, et non pas l'univocité, à travers, bon évidemment Ovide, les Métamorphoses, mais aussi le Caravage, Paul Valéry, Rilke, Freud et bien d'autres. Donc on est partenaire avec plaisir de ce parcours.
Et dans son nouveau numéro d'été, le nouveau magazine littéraire fait une autre invitation, non pas à se réconcilier avec nos narcisses froissés, brisés, contrariés, mais à vivre sans Dieu.
Oui, alors, bon, il s'agissait pas de donner, je dirais, dans le prosélytisme pur et simple de l'athéisme d'appeler tout le monde à devenir agnostique, mais on a simplement constaté que, alors qu'on ne cesse de marteler le grand retour du religieux, y compris bien sûr dans ses formes les plus extrêmes et les plus mortifères, que le monde, quand même contemporain globalement, se sécularise et est profondément sécularisé. Enfin, quand on regarde des sondages quand même, par exemple un des derniers sondages en date en 2015, 40% des Français se disaient certes religieux, mais 35% non religieux et 18% athées convaincus. En Chine, c'est 61% des gens qui se disent athées convaincus. Au Japon, 34%. Bon, proposer un été athée, si on peut dire, c'était simplement rappeler que la concerne beaucoup de monde d'abord.
Et puis c'était l'occasion de donner la parole aussi à des personnes, des grandes voix, oui, qui se revendiquent athées ou agnostiques,
bien sûr,
comme par exemple
notamment Philippe Solers, qui clame que tous les écrivains sérieux sont athées, ou bien le philosophe Slavoj Žižek, pour qui la question n'est pas de savoir si l'on croit ou non en Dieu, mais si on l'accepte ou pas. Et puis bien sûr aussi Riss, par exemple le directeur de Charlie Hebdo, pour qui les athées n'ont rien à vendre.
Et Sylvain Tesson, il aurait écrit quoi dans les pages du nouveau magazine littéraire? Agnostique?
J'aurais d'abord demandé un sursis de réflexion. Pour m'enfermer dans un isoloir et réfléchir.
C'est une grande question.
Il faut s'entendre. La croyance en une abstraction qui est distante de l'objet de sa création, très peu pour moi. Mais la certitude qu'il y a quelque chose lorsque je m'enfonce dans les bois ou lorsque je nage dans les eaux de la Méditerranée, alors cela, oui, elle m'étreint et elle me traverse.
Et alors, tout à l'heure, Sylvain Tesson, vous évoquiez Charles Péguy. Il trouve aussi sa place dans ce nouveau magazine littéraire. Et pourquoi, d'ailleurs, un dossier lui est consacré?
Oui, c'est le deuxième dossier de ce numéro. Il y a une curieuse union sacrée autour de Péguy depuis quelques années, bizarrement, c'est-à-dire que tout le monde s'en réclame depuis quelques années, et bizarrement, par-delà tous les clivages, ça va de la droite identitaire et conservatrice à l'extrême gauche, ça va de Patrick Buisson à Edoui Plenel, en passant par Finkielkraut, Debray, Chevènement ou Yann Moix, qui d'ailleurs signe un très long papier enflammé sur Péguy dans ce numéro. Et donc on voulait revenir un petit peu, bon, c'est une pâte à modeler assez commode, je dirais, Péguy, parce qu'il y a tellement de contrastes qu'on peut en faire un peu n'importe quoi. Donc on voulait revenir au volcan premier. Et c'est vrai que c'est une folie, c'est un chrétien contre l'Église, c'est un socialiste contre le Parti Socialiste, enfin son institutionnalisation sous forme de parti, c'est un patriote mais qui rejette tout instinct grégaire, c'est un intellectuel qui refuse tout dogme et tout esprit système. Enfin bref, voilà, on est revenu à cette espèce de volcan qui était Péguy, et Moix, d'ailleurs, dont c'est l'idole, donc rappelle dans son texte une devise fondamentale selon lui: il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite.
Merci beaucoup Hervé Aubron, le nouveau magazine littéraire est en kiosque, sans Dieu, mais avec Charles Péguy. Merci mille fois à vous Sylvain Tesson. Un été avec Homer vient de paraître aux éditions de l'Équateur, des Équateurs, en coédition avec Radio France.